la pause maternelle. Bonjour et bienvenue sur la pause maternelle sur Calade. On est ensemble jusqu'à 10h30. Alors cette émission, elle est dédiée aux mamans pour leur offrir la possibilité de parler sans tabou de leur maternité et de tous les sujets autour de cette période-là. Vraiment qu'elles puissent se libérer de leur expérience et toutes les mamans concernées. Chaque semaine, on recevra une maman pour venir témoigner en direct ou anonymement. Et on pourra échanger par la suite autour de ce témoignage et répondre à ces questions. Moi, je suis Élodie, doula. J'accompagne donc les mamans durant tout leur parcours de la maternité, de la préconception jusqu'à durant tout le postpartum. Et avec moi, Lucille, musicothérapeute, clinicienne. Comment ça va, Lucille ?
Bah, ça va très bien, et toi ?
Ça va, merci.
Bon, bah, écoute, on a un sujet un peu délicat aujourd'hui.
Oui.
Je trouve, en tout cas, qui est sérieux. Et je pense que c'est important d'en parler. Délicat dans le sens où ça peut créer parfois un peu de controverse ou en tout cas des idées reçues et qui ne sont pas forcément vraies. Et je trouve que la meilleure chose, parfois, c'est d'entendre parler les personnes qui sont dans ce parcours plutôt que de chaque fois lister des chiffres, des études ou quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier qu'il y a des êtres humains qui vivent aussi ça derrière. Et donc, je pense que c'est...
C'est souvent oublié, le côté humain.
Voilà, c'est souvent oublié. Et donc, je pense que c'est quand même très important. Et donc là, aujourd'hui, on va entendre le témoignage de Radia. Radia, je suis vraiment très contente qu'on puisse te recevoir à la pause maternelle. En quelques secondes, on va faire effectivement quand même les chiffres, mais... Sachez que, voilà, maintenant commencez peut-être à nous connaître, on va rester sur le côté humain. Donc, voilà, en 2020, il y a plus de 123 femmes et couples qui tentent le parcours PMA, un parcours qui peut être très complexe. Et puis...
Je me permets de rectifier ces 123 000 parcours
123
PMA.
000, merci beaucoup. Et puis, c'est le matin, réveillez-vous avec nous.
Le lundi matin, surtout.
C'est le lundi matin. 2,7% des naissances en 2020 qui sont issues de la PMA. Et puis, il y a trois types de parcours, donc l'insémination artificielle, la fécondation in vitro ou FIV, et puis la décongélation d'embryons. Si vous avez des questions, si vous cherchez un centre en particulier, vous avez Natessia ou l'Institut Rhône-Alpin à Lyon qui peuvent aussi vous aiguiller. Voilà, si vous êtes déjà dans cette démarche et que vous posez des questions. Donc, du coup, je vais te laisser te présenter, Radia, puis raconter ton histoire après tout ça.
Merci. Alors, bonjour, je m'appelle Radia, j'ai aujourd'hui 46 ans et j'ai un petit garçon qui a 11 ans. Qui a eu 11 ans le 11 septembre 2013 exactement, et qui est issu de la PMA. Voilà.
Merci, Radia. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus un peu sur ton vécu, comment tu t'es sentie entourée aussi, accompagnée par les professionnels ?
Oui, bien sûr, je vais vous raconter mon histoire parce que je pense qu'elle peut effectivement servir. Pendant 3 ans, on a essayé de façon naturelle avoir un enfant avec mon mari. Et moi, j'étais persuadée que ça allait fonctionner parce qu'on a toujours des remarques, des médecins, des gynécos, etc., qui nous disent « Mais attendez, vous avez pris la pilule pendant un petit bout de temps, donc c'est normal, il faut attendre, soyez patient. » Et en fait, on est patient pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, on se décide d'aller voir un spécialiste qui est gynécologue, mais qui est juste spécialiste en PMA. Donc, pas du tout un centre de PMA. On n'est pas du tout allé en centre de PMA. Et du coup, là, ça a été un petit peu violent parce que forcément, d'abord, on s'occupe de la femme. Donc, j'ai eu droit à une série de tests médicaux, clairement, où vous transformez en rat de laboratoire, avec des examens médicaux qui ont des noms relativement barbares, je trouvais, type hystérosalpingographie. Je vous passe même pas le nombre d'échographies vaginales faites, parce qu'au bout d'un moment, en fait, on se se pose même plus la question. En fait, votre corps ne vous appartient plus. Clairement, c'était ça.
Est-ce qu'on vous avait expliqué un petit peu à tous les deux avec ton partenaire comment ça allait se passer ce parcours? Est-ce qu'il y a déjà eu un peu avec le gynéco spécialisé en PMA? Est-ce qu'il a pris le temps de vous expliquer un petit peu comment ça se passait?
Alors justement, au départ, pas du tout. C'est pour ça que pour moi, c'est important de préciser que je ne suis pas allée dans un centre de PMA, mais que j'étais chez un gynécologue qui était spécialisé en PMA. On nous l'avait recommandé, on nous avait dit qu'il était formidable et qu'il avait pratiquement 100% de réussite. Donc c'est pour ça qu'on allait le voir. Donc lui, clairement, nous, on était un numéro. On était un numéro. On était un dénominateur dans une équation à résoudre ou dans une fraction à résoudre. Et c'est tout, en fait. Donc vraiment, voilà. Donc d'abord, moi, on m'a envoyé faire tous ces examens. Puis le jour des résultats de tous ces examens, rendez-vous dans son cabinet. Mon mari ne peut pas venir. J'y vais toute seule. J'étais loin de me douter de ce qui allait m'arriver à ce moment-là. C'est-à-dire que il était devant ses papiers. Il a regardé tous ses papiers en disant en fait c'est simple. J'avais 32 ans à l'époque. Il me dit vous avez des ovaires d'une femme de 60 ans. Donc évidemment ma petite dame, vous pourrez jamais réussir à avoir un enfant. Donc moi, dans ma tête, ça a été...
À ce moment-là, comment ça se passe dans ta tête?
Ça a été... j'ai dégoupillé, comme on dit, en fait. Hein. J'ai dégoupillé, j'ai explosé. J'étais assez violente, alors je ne suis pas du tout violente, vraiment. Mais j'ai renversé son bureau, j'ai pris mes affaires, je suis partie en criant, en pleurant, et surtout en le criant que je n'étais pas un rat de laboratoire. Que je ne voulais pas de ce genre de traitement, que je ne méritais pas ce genre de traitement, et qu'il y avait des façons de dire des choses et de faire les choses, et que pour moi, c'était hors de question de rester une minute de plus ici. Quoi.
Dans ce cas-là, tu parlais du traitement verbal.
Du traitement verbal et du traitement et du non-traitement humain, c'était surtout ça. À ma grande surprise, ce médecin... qui avait à l'époque entre 55 et 60 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il avait quand même une expertise certaine. Mmh. À ma grande surprise, en fait, il m'a rattrapée et m'a serrée dans ses bras en me disant non, pardon. Vraiment, pardon. En fait, il s'est excusé auprès de moi comme un papa pourrait s'excuser auprès de son enfant en disant désolé, je me suis trompée. En fait, j'aurais pas dû dire les choses comme ça. Et il m'a demandé de me rasseoir. Il m'a demandé de l'écouter. Donc, je l'ai écouté. Et à ce moment-là, il m'a expliqué. Il m'a expliqué que lui, il n'était qu'un scientifique. C'était ses mots, vraiment. Hein, qu'il n'était qu'un scientifique et que lui avait un calcul à résoudre et que pour lui... A plus B devait faire absolument C, et que moi, dans ma tête de patiente, c'était moi plus mon mari, on veut un enfant, on veut un bébé. Et donc là, il a pris connaissance, vraiment.
Oui. Ce que tu soulèves ici, c'est intéressant, c'est le côté aussi, des fois, de déconnexion, et c'est pas... C'est pas anodin non plus parce que voilà, on connaît aussi l'état de l'hôpital aussi en ce moment. Les personnels soignants le disent à juste titre aussi. Le fait que du coup ils enchaînent les numéros, des dossiers, que les personnes soient anonymisées, pardon, qu'il y ait plus de que ce soit très difficile pour eux en fait de remettre aussi de l'humain et qu'ils sont aussi en lutte de ce côté-là. Et ce monsieur, en fait, qui t'a rattrapé, il a montré aussi cette part d'humanité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a levé la tête de son papier pour pouvoir te regarder en face et dire « excusez-moi ». Et je trouve que ça, c'est une grande part aussi d'humanité, d'oser dire pardon et de s'y reprendre, surtout dans un parcours aussi particulier.
C'est exactement ça. Et il s'est... Et en fait, bon, je vais spoiler un petit peu, mais en fait, finalement, pendant ensuite tout le parcours, il n'a pas arrêté de s'excuser. Très vite, finalement, on s'est tutoyé. très vite, finalement, en fait, on a eu un contact très particulier. Et il aimait à me présenter après à ses confrères pour les autres examens qui avaient lieu après, de me dire je vous présente Radia avec tout mon parcours, et en fait en expliquant que j'étais sa révélatrice. C'était parce que je l'ai révélé, j'ai révélé son côté humain, et en fait après autant d'années de consultation, il pensait l'avoir perdu, tout simplement.
Ça, c'est magnifique. Dans ton témoignage, on voit l'importance, en fait, de oser dire ce qu'on ressent, comment on vit les choses, ne pas rester avec ses doutes, avec ses ressentis, vraiment réussir à verbaliser tout ça. Mine de rien, même si on a un professionnel en face qui a l'impression d'être totalement fermé et totalement inhumain, c'est important. Et pour les mamans, de verbaliser les choses, déjà pour se libérer et peut-être faire prendre conscience aux professionnels que dans son approche, il y a peut-être quelque chose à améliorer. Quoi.
Ouais, c'est exactement ça.
Il y a deux choses qui se confrontent ici aussi. C'est qu'on est dans l'expérience de 1000 grammes aussi.
Oui.
C'est-à-dire que quand on arrive en tant que patient, on arrive face à une autorité, en fait, qui est la blouse blanche, qui du coup a aussi les diplômes, les qualifications, qui s'est spécialisée là-dedans. Et puis de l'autre côté, on a aussi un scientifique, certes, mais qui a pris une identité, qui a pris un personnage, si on veut revenir un peu sur la psychologie jungienne. Il a son personnage aussi, c'est-à-dire que c'est peut-être le côté humain qui est arrivé là dans son métier, et il avait morcelé les choses, c'est-à-dire qu'il avait son personnage public, son personnage intime, son personnage de l'ombre, qu'on espère ne pas voir à l'hôpital. Mais en tout cas, là, à ce moment-là, tu lui as fait un choc. Et c'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait de faire sortir ses émotions aussi au bon moment et correctement, en posant aussi ses limites. Parce que là, tu es arrivé en posant tes limites. Alors certes, c'est quelque chose qui ne t'était jamais arrivé de t'énerver en face de quelqu'un, mais ça l'a fait réagir, ça a fait ressurgir chez lui aussi l'intimité et le fait de « non, je ne peux pas faire ça à un autre être humain ». Et ça, je trouve que c'est magnifique, qu'il en faut aussi un peu plus, mais il faut aussi comprendre leur position, que tous les matins, ils mettent un manteau pour se protéger de tout ce qu'ils voient, de tous les parcours, parce qu'ils partagent aussi ça, et que s'ils n'avaient pas ce manteau sur eux, ce serait très difficile psychologiquement aussi. Je pense qu'il y a ça aussi à comprendre, même quand on est patient. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle pour les uns et pour les autres. Et de l'autre côté, que les professionnels puissent dire « t'as le droit d'enlever un peu ta veste de temps en temps et de regarder la personne que t'as en face. » Remettre un peu d'humanité, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça a été l'objet de longues discussions plus tard avec lui à ce sujet-là. Et puis du coup, à partir de là, je lui demandais d'être humain et transparent. Il m'a dit « ok ». Il m'a dit « j'ai jamais fait ça, mais ok ». Je lui ai dit « mais comment ça, vous avez jamais fait ça, c'est pas possible ». Et en fait, il me disait « non, c'est vrai, j'ai été toujours transparent, mais jamais humain. Parce que je pense que les gens n'attendent pas ça de moi, n'attendaient pas ça de moi. On m'attendait un résultat, mais on n'attendait pas d'humanité de ma part ».
Tu l'as soulevé d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, tu as dit « la réussite ». Parce que quand on part sur un parcours PMA, c'est comme si on partait sur un marathon. Et il y a une idée derrière de mériter son cadeau, de mériter son trophée à la fin, et donc d'avoir cet élan de réussite. Sauf qu'on est quand même dans une construction particulière dans notre société face à la réussite. Et donc, du coup, la réussite, c'est à la fin quand même, il ne faut pas oublier que c'est un être humain qui est créé. Donc, on ne peut pas mettre ça dans un parcours aussi PMA. Il y a les chiffres, il y a les notions, il y a ce genre de choses, mais à la fin, c'est un être humain qui va être créé et une famille qui va se mettre en place. Et il ne faut pas oublier ce côté-là. Et la réussite, elle vient parce qu'on a aussi une éducation qui nous mène à ça. Et un environnement qui n'est pas forcément sain au niveau de la communication, que ce soit des émotions ou alors intrafamilial. Et ça, c'est important quand même d'y penser. On va faire une petite pause. Radia, merci beaucoup déjà pour ce témoignage en première partie. Et puis justement, je vais vous faire écouter une musique qui s'appelle Crossroads. On arrive à un croisement de route, justement, lorsque le parcours n'est pas comme on avait prévu. Est-ce qu'on va vers la réussite? Est-ce qu'on va vers l'humanité? Est-ce qu'on va mélanger un peu les deux? Crossroads, c'est parti.
folks like you owned my life. You never made a sacrifice. Demons err on my trail. I'm standing at the crossroads of a hill. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. You got my price, which I'll sell, that is mine. Think money rules when all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life.
Vous écoutez la pause maternelle sur Calade, votre rendez-vous maternité mensuel en direct le premier lundi du mois de 10h à 10h30. Nous avons commencé à écouter Radia qui témoignait de son parcours PMA. Radia, je te laisse continuer.
Donc, à partir du moment où je savais que j'avais un souci, que j'avais réussi à humaniser mon gynécologue adoré maintenant...
Je te coupe juste deux secondes. Est-ce qu'il a prononcé lui-même le fait que vous étiez en parcours PMA ?
Oui, alors justement, après, à partir du moment où je lui ai demandé d'être transparent et humain, il a été transparent et humain, c'est-à-dire qu'il nous a laissé le choix, il nous a expliqué. Alors, soit vous continuez la PMA avec moi, et dans ces cas-là, c'est moi qui vais... C'est un travail d'équipe. Il faut qu'on soit ensemble et il faut pas qu'il y ait de doute dans les deux cas. Donc voilà, parce que vous aurez des choses à faire. Moi, je vais avoir des choses à faire aussi. Et puis surtout, il faut qu'il y ait de la confiance. Voilà. Et puis avec mon mari également, accessoirement, parce que à PMA, on parle beaucoup des femmes, mais il y a aussi il y avait mon mari en fait qui était là et qui m'épaulait évidemment.
Et puis, ou alors, ils sont parfois aussi amenés à faire des examens eux aussi.
Absolument, il avait un examen à faire un seul sur les 15 que j'ai fait. Okay. Enfin, bon, voilà, ça c'est une autre
histoire. Comment est-ce que lui s'est positionné justement dans ce parcours ?
Désolé que ce soit moi qui dois tout subir, qui doivent tout faire. Voilà, désolé. Et donc, forcément, quand lui a eu à faire son spermogramme. Du coup, je lui dis, va, fais ta part aussi. Et voilà, donc lui, il était un peu désolé parce qu'en fait, en gros, il n'avait rien à faire, il n'avait rien à subir en quelque sorte, quoi. Parce que c'est vrai que quand on est dans un parcours PMA, la femme a beaucoup d'examens médicaux et donc voilà. Donc,
comment tu t'es sentie, toi, par rapport à ça ?
Les examens médicaux ?
Ouais.
Je crois que quand on n'est pas préparé, en tout cas toute la première partie où je n'étais pas préparée, c'est-à-dire la première partie où on recherche le souci, le pourquoi de ça ne fonctionne pas. Donc on s'intéresse à l'ovulation, l'état des trompes, l'état des ovaires, etc. Toute cette partie a été mal vécue parce qu'on ne me disait pas. On m'expliquait le jour J en fonction de l'infirmière ou du médecin que j'allais avoir en face de moi qui me disait aujourd'hui on va faire ceci, aujourd'hui on va faire cela, aujourd'hui on va faire ceci. En sachant que c'est long, hein, c'est pas en une semaine où on fait cinq examens en une semaine. Alors nous à l'époque on était à Paris, donc les délais étaient très longs. Donc c'est-à-dire que tous les examens ont dû durer à peu près 6 mois. Entre les délais de rendez-vous, etc., ne pas être dans son cycle menstruel aussi, parce que oui. Du coup, il y a ça aussi. Certains des examens qui doivent être faits 5 jours avant avant les règles, 15 jours après les règles, avant l'ovulation, après l'ovulation. Donc tout ça prend un temps incroyable. Tout ça prend un temps incroyable.
Et du coup, est-ce que dans ce parcours, vous avez eu un accompagnement psychologique spécialisé ? Parce que tu parlais justement d'un gynécologue spécialisé en PMA, mais du coup, dans ce parcours-là, est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu vous aiguiller, en fait ? Parce que
c'est-à-dire qu'au moment où on nous a proposé soit de continuer le circuit PMA avec lui, donc à savoir le gynéco, on avait le choix aussi d'aller dans une clinique spécialisée en PMA où on nous a expliqué qu'il y allait avoir toute une cellule donc de psychologues qui seraient là aussi pour nous, qu'on aurait la possibilité de rencontrer également éventuellement d'autres parents aussi qui sont dans le même cas que nous, etc. Et que même si on ne choisissait de ne pas aller dans cette clinique spécialisée en PMA, on avait toujours la possibilité d'aller voir un psychologue aussi. Il nous a donné des coordonnées de psychologues qui étaient spécialisés dans l'accompagnement des familles en PMA.
Okay.
Donc on avait la possibilité, oui.
Est-ce que vous aviez autour de vous quand même un cercle fort de des amis et du soutien, un groupe de soutien en fait ? En dehors de ça ?
Autour de nous, on avait un groupe de soutien, on avait nos amis, on n'avait pas nos familles parce qu'on n'avait pas envie de se rajouter la pression familiale. On n'avait pas envie de ça, mais on avait nos amis très proches qui étaient au courant. Et du coup, on a été accompagnés par eux. Mais surtout, on a décidé d'en faire une force. C'est-à-dire que dans le couple, c'est souvent des flagrations. C'est difficile, c'est des moments difficiles. Le couple est mis à rude épreuve. Et donc, nous, on s'était dit, OK, soit ça passe, soit ça casse, clairement. On connaît beaucoup, on avait déjà pas mal de couples autour de nous qui étaient allés en PMA. Ça avait fonctionné ou ça n'avait pas fonctionné, mais en tout cas, le couple avait éclaté. Donc, on avait conscience de ça. Et du coup, on a décidé d'en faire une force. On s'est dit, allez, nous, ça ne va pas casser, mais on va se parler. On va se parler, on va rigoler. On va se dire que c'est une expérience. Et on va se dire surtout que ça va marcher, quoi, en fait. Donc à partir de là, à partir du moment où on a décidé de rester avec notre gynéco, et on a décidé de ne pas prendre, en tout cas pas tout de suite, une aide psychologique, on s'est dit, vivons ça comme une expérience.
Et comment ça s'est passé ?
Alors, on a eu cette sensation vraiment, enfin, c'était plus la mienne, mon mari plus tard m'a dit « oui, c'est vrai, t'as raison ». Cette sensation de vous mettre dans un avion, vous êtes prêt pour faire 24 heures de vol non-stop, donc vous prenez votre oreiller, votre petit plaid, votre musique préférée, vos bonbons préférés, votre thé préféré, etc., en se disant « ça va durer longtemps ». Mais au moins, on est prêt, on a tout avec nous, ça va bien se passer, ça va être long, mais on va y arriver. On va réussir. Et au premier vol, première heure de vol, descendez de l'avion. En fait, on a fait notre insémination le 10 décembre 2012. Et le 25 décembre, on avait un test positif. On avait ce test positif. Et là, on se dit, OK, on doit descendre de l'avion. Mais on était tellement prêts à aller tellement loin, à faire des heures de vol tellement longues qu'on avait peur de descendre. C'est-à-dire que cette grossesse, moi qui avais déjà fait plusieurs fausses couches, on en a peur. Parce que ce test tellement attendu, positif, en fait, on veut qu'il reste positif. Donc, on fait beaucoup de prises de sang. On n'en parle pas autour de nous. Parce qu'on sait que au plus on le dit à plusieurs personnes, et potentiellement on a autant de personnes à qui dire ça n'a pas fonctionné. Donc on n'en parle pas, on le garde pour nous, on se dit on verra.
Parce qu'émotionnellement, ce serait trop dur de recevoir après.
C'est ça.
Les mots et puis le fait qu'ils ne sachent peut-être pas forcément tout le temps bien se positionner face à ça.
Exactement.
Parce que ça serait un deuil.
Exactement. Donc on se protège de ça.
Je voulais revenir juste sur un sujet que tu as abordé quand on a préparé l'émission. C'est le fait qu'à l'époque, c'était une honte d'avoir recours à la PMA et de ne pas pouvoir procréer naturellement.
Absolument. Aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on en parle beaucoup. Il y a des émissions radio, il y a des blogs, il y a tous les réseaux sociaux, beaucoup de groupes de parole qui sont à ce sujet-là. Moi, il y a 11 ans, il n'y avait pas tout ça. Il y avait quelques blogs, quelques femmes qui osaient raconter leur histoire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi aussi de venir témoigner aujourd'hui sur Calade. C'est parce que il faut se libérer de ça. Il ne faut pas hésiter à discuter autour de soi parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a été dans ce cas-là. Enfin, ce n'est pas du tout une honte. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça.
À quoi ça tient, à ton avis, le fait qu'à un moment donné, il y a cette difficulté avec ces trois lettres qui sont juste trois lettres, mais en réalité qui recouvrent quand même pas mal de choses.
Je pense que aujourd'hui c'est l'échec. On parlait de réussite tout à l'heure. L'échec fait peur. On n'a pas envie de ne pas réussir. Ça reste quand même relativement honteux. Dans certains milieux sociaux, de dire je ne peux pas avoir d'enfant. Et puis en plus, ce regard horrible des gens qui vont pencher un peu la tête vers la droite en disant « Oh, la pauvre !»
Et après, c'est aussi parce que c'est pas forcément... Enfin, je me rappelle un petit peu de mes cours de biologie lorsque j'étais en cinquième et en quatrième, lorsqu'on du coup on parlait de la reproduction. Moi, je me rappelle que ça a été mis en un quart d'heure où du coup on a parlé aussi des femmes qui ne pouvaient pas, mais parce qu'une élève a posé la question, elle a dit mais du coup si on a nos règles, du coup ça veut dire qu'on peut avoir des enfants. Et je me rappelle de la prof qui nous avait dit « Ah non, ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire qu'au niveau de votre fonctionnement interne, il y a ça fonctionne, mais ça ne vous garantit pas de pouvoir procréer et tout ça. » Et je me rappelle de son injustice, à ce moment-là, de son sentiment d'injustice, de dire « Mais en fait, c'est quelque chose que je ne peux pas prévoir, que je ne peux pas contrôler, et j'ai peut-être que 14 ans, mais là, en fait, on est en train de me dire quelque chose qui m'arrive en pleine poire. » Et je trouve qu'on n'est pas forcément assez accompagné là-dessus. Est-ce qu'on doit l'être aussi en même temps parce que finalement, tout prévoir, tout contrôler, ça peut aussi empêcher et stresser.
Bien sûr.
Mais il y a, je pense, un minimum.
Informer peut aussi rassurer.
Informer et qu'il y ait un minimum quand même pour qu'on reste dans cet équilibre-là et qu'on ne se trouve pas de carimancilla dans un bureau à tomber des nues et compagnie. Quoi.
Absolument.
Eh ben, l'émission prend fin. Merci beaucoup, Radia, de ton témoignage. Merci d'avoir le courage de parler de ce parcours qui est quand même relativement lourd pour le couple, pour la femme qu'on est. Et je suis persuadée que ça va aider d'autres mamans aussi. Et puis, J'espère. Voilà, démocratiser aussi le parcours PMA qui est malheureusement... il y a de plus en plus de femmes qui ont recours à la PMA. Donc, merci.
Merci à vous.
On se retrouve le premier lundi de chaque mois, de 10h à 10h30, sur Calade. Vous trouverez le replay sur le site de la radio, donc radio-calade.fr. Et si vous avez vous aussi envie de témoigner, vous pouvez nous envoyer votre témoignage à lapausematernelle@outlook.com. Merci et bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
La pause maternelle.